Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Lionel Berthet. Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices.
Lionel Berthet, vous êtes avec nous pour nous annoncer le salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales. Ce sera à Soleure-en-Diois, à la salle polyvalente de Soleure-en-Diois, les 4 et 5 avril, donc samedi et dimanche de Pâques. Pour cette proposition, il y aura plusieurs chocolatiers présents et qui présenteront donc leur production, mais au-delà même peut-être d'un savoir-faire, avec des démonstrations, des ateliers et puis aussi une exposition de photos. Alors avant tout, Lionel Berthet, qu'est-ce qui vous a amené à être chocolatier ?
Moi, personnellement, je ne le suis pas. Moi, je vis dans l'événementiel et à titre associatif, ça faisait quand même pas mal d'années qu'on parlait de lancer un salon très particulier dans le Diois qui est unique en France. On l'a mis sur l'affiche. Les gens me posent parfois la question, mais enfin, il y en a des salons du chocolat partout ailleurs en France. Pourquoi le vôtre il serait unique en France ? Parce que nous avons fait le choix de ne faire appel qu'à des petits artisans chocolatiers qui ont monté leur filière solidaire avec les pays producteurs. C'est-à-dire qu'on s'est lancé le défi de garantir à nos gourmands et gourmets qui vont venir, et gourmandes aussi, pendant ce week-end, la traçabilité sur le chocolat de la plantation à la tablette.
Alors, Lionel Berthet, quelles sont les fonctions pour vous d'être présent à ce salon ?
Ben en fait, avec mon association Transcendalpes, on fait avant tout de l'éducation au goût. On fait parfois aussi des ateliers, des cafés-débats, des conférences. Peut-être que d'ailleurs, au mois de septembre, au mois d'octobre prochain, on en proposera une pour l'Université populaire du Diois. On est en discussion avec cela, puisque je sais qu'il y a une manifestation qui va avoir lieu pendant plusieurs jours autour de l'alimentation. Un autre se posait la question sur un autre mode d'alimentation. Et le but vraiment, c'est de faire prendre conscience au public de tout ce que l'agro-industrie veut nous cacher. Et dans le chocolat, on peut le dire qu'on baigne vraiment dans l'agro-industrie en cette période de Pâques. Si vous ne venez pas au salon croquettique, vous avez quasiment la garantie, malheureusement, de consommer un chocolat industriel qui a été ultra transformé. C'est vraiment un produit ultra transformé, le chocolat, il faut le savoir. À commencer par l'extraction de la matière grasse de la fève de cacao, qui est la matière première pour produire le chocolat. Cette extraction, elle se fait à partir en utilisant des solvants, notamment un hydrocarbure qui s'appelle l'hexane. C'est un exemple de ce que l'agro-industrie a à nous cacher. Mais il y a quelques petits artisans chocolatiers qui ont choisi de procéder autrement et surtout qui ont choisi de travailler main dans la main, d'où le logo croquettique de ce salon du chocolat vertueux, de travailler main dans la main avec des planteurs de cacao dans les pays producteurs. Et donc, on va avoir l'occasion pendant ce week-end de voyager au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Colombie, en Équateur, etc.
On peut peut-être aussi présenter cette organisation Transcendalpes. Elle est basée à quel endroit ?
Une petite association qui est basée du côté de Chambéry, simplement pour des raisons pratiques, puisque c'est là où je réside, mais qui a déjà eu l'occasion d'organiser plusieurs salons gourmands. Alors notamment sur la Savoie, mais pas que, ce salon croquettique existe déjà depuis 3 ans en Haute-Savoie, donc à Héry-sur-Albi. D'ailleurs, il a lieu là les 28 et 29 mars, et à Orchamps, dans le Jura, ce sera les 31 octobre et 1er novembre prochains. Mais comme nous avions dans notre réseau de chocolatiers éthiques qui travaillent avant tout avec de vraies valeurs et la main sur le cœur, une chocolaterie notamment qui est basée à Rokubo, qui est sur le Diois, on s'est dit c'est aussi l'occasion de venir proposer au public du Diois ce salon du chocolat très particulier où vous allez vraiment avoir de très belles surprises.
Chocolaterie Hiéré, donc basée à Recoubeau-Jansac, et c'est ce qui vous a aussi amené à venir ici, donc par justement son aspect éthique aussi.
Tout à fait, c'est formidable ce que font depuis plus d'une dizaine d'années Amona et Thomas, qui était anciennement installé à Glandage, certains s'en souviennent peut-être, et désormais à Rokubo. Cette volonté de travailler avec un minimum d'intermédiaires et surtout sans ingrédients louches qu'on pourrait rajouter dans le chocolat, comme de la lécithine ou divers arômes ou même d'autres matières grasses qui ne sont pas issues du cacao. Non, tous ces artisans chocolatiers qui seront présents le week-end des 4 et 5 avril à Soleure-en-Diwa, eux, ils travaillent vraiment dans l'amour du produit, avec des chocolats qui sont riches en cacao, encore plus riche en goût, pour tout simplement magnifier le terroir de ces plantations qu'ils connaissent de la fève à la tablette.
Alors vous parliez de l'hexane, hein, c'est ce solvant qui permet de récupérer au maximum la matière grasse de toute substance pour ensuite en tirer un maximum de profit. Mais c'est aussi un solvant toxique, hein, pour l'humain. Je ne connais pas les possibilités de toxicité. Par contre, en alternance à cette substance de l'hexane, quelle est l'alternative qu'utilisent justement ces chocolatiers artisanaux ?
Mais pour vous expliquer, dans tout fruit oléagineux ou dans toute matière agricole qui pourrait être grasse et dont on pourrait extraire de l'huile, pour extraire la matière grasse, rien de plus simple, il suffit d'avoir une presse, d'utiliser des simples procédés mécaniques. Sauf que, en extrayant du beurre de cacao, en pressant les fèves de cacao pour en extraire la matière grasse, parce que ces fèves de cacao qui sont la matière première, qui sont effectivement à la base de la fabrication du chocolat, une fève de cacao, ça contient en moyenne 50% de matière grasse, 50% de matière sèche. Bon. Alors néanmoins, quand on la prend dans la main, la fève de cacao, on ne se rend pas forcément compte qu'elle est grasse. Ce n'est pas comme une olive, si vous voulez. Donc on se dit, tiens, mais comment on pourrait extraire de la matière grasse de cela ? Eh bien, grâce à une pression suffisante, une presse mécanique, on a cette matière grasse qui va s'écouler, qui va figer, qui va devenir du beurre de cacao. Et il restera ensuite un tourteau un peu amaigri en matière grasse, en quelque sorte, une sorte de poudre de cacao. Sauf que dans ce tourteau-là, avec ces procédés mécaniques, il reste environ 12 à 13% de matière grasse dedans. Alors les industriels, quand ils ont commencé à procéder avec des procédés mécaniques, ils se sont dit, s'il reste de la matière grasse là-dedans, comme je valorise beaucoup mieux mon beurre de cacao que ma poudre de cacao, je le vends beaucoup plus cher au kilo, le beurre de cacao, s'il reste 11 à 12% ou 13% de matière grasse là-dedans, ça veut dire que je perds de l'argent. Comment je pourrais faire pour extraire encore davantage de matière grasse ? Et c'est là que les solvants, effectivement, sont intervenus. Et ce résidu de la presse du cacao à échelle industrielle, et de la, c'est de la dissolution, en quelque sorte, avec ces solvants, notamment l'hexane, on va en récupérer le maximum de beurre de cacao et ensuite il va rester une poudre particulièrement maigre en matière grasse. Il n'y a presque plus rien là-dedans. C'est le fameux cacao maigre en poudre. Partout où vous voyez marqué cacao maigre en poudre, ça veut dire que derrière, on est passé par un procédé industriel qui a utilisé des solvants, dont l'hexane. Alors certaines marques sont un peu plus honnêtes que cela. Parfois, vous voyez marqué sur les produits bio « cacao fortement dégraissé ». C'est réellement le terme. Il a été vraiment fortement dégraissé. Alors que les artisans qui seront présents les 4 et 5 avril à Soleure-en-Diwa, eux, ils ont tout simplement fait le choix de petites filières pour s'approvisionner en beurre de cacao avec une presse mécanique sans aucune autre étape de transformation. Donc au final, on a une matière grasse qui est pure, qui est directement extraite de la fève de cacao, sans être passé par des produits chimiques par-ci, par-là.
Les chocolatiers présents, est-ce que vous pouvez nous les citer et puis aussi peut-être leur provenance ?
Exactement. Alors, vous savez, on est allé les chercher assez loin. Parce que sur 4 000 à 5 500, alors ça dépend quels critères on va prendre. En France, il y a environ 4 000 artisans chocolatiers et environ 5 500 si on compte aussi les magasins de revente, mais où le chocolat n'est pas directement produit, et les grandes surfaces, etc. Environ 5 500 commerces qui proposent du chocolat dit artisanal. Mais en vérité, sur ces 5 500, ils sont seulement 130 à travailler à partir de la matière première, c'est-à-dire de la fève de cacao. Tous les autres chocolatiers, qui ne sont pas bintoubar, bintoubar voulant dire de la fève à la tablette, transforme déjà une matière industrielle, qui est un chocolat de couverture, qui est fabriqué par des industriels, la quasi-majorité, la quasi-totalité des cas. Et du coup, on parle bien d'artisans chocolatiers, certes, mais qui travaillent déjà une matière première qui a été transformée par des industriels. Il ne reste finalement qu'environ 130 artisans chocolatiers qui ont choisi de travailler à partir de la matière première noble, c'est-à-dire de la fève de cacao. Pour autant, est-ce que ces artisans-là ont une traçabilité totale sur leur sourcing pour le cacao ? Mais malheureusement, non. Il y en a beaucoup qui achètent tout simplement leur fève de cacao à des grossistes aux Pays-Bas. Alors quand on sait que 40% de la production mondiale de cacao transite par les ports des Pays-Bas, vous comprendrez qu'il n'y a pas réellement de traçabilité là-dedans. D'autres ont fait le choix de passer par des sourceurs. Alors ça dépend à quelle échelle est l'entreprise de sourcing. Les sourceurs, ce sont ces professionnels qui vont dans les plantations ou parfois seulement traiter avec des coopératives de plusieurs centaines de planteurs pour dénicher des origines de fèves de cacao. Bah, vous avez des entreprises de sourceurs qui brassent des milliers et des milliers de tonnes. Et quand on sait qu'il faut environ 2 hectares pour produire une tonne de cacao, on perd rapidement la traçabilité. Parce que la culture du cacao, finalement, c'est une affaire de petits paysans. Ce sont que des petits planteurs qui ont en moyenne 1 à 2 hectares, pas plus. Sauf en Amérique latine, parfois il y a des haciendas qui sont un peu plus grosses. Mais il n'empêche que faire appel à un sourceur, c'est pas forcément un gage de qualité et de traçabilité absolue. En l'occurrence, il reste une petite vingtaine, sur les 5500 que j'ai cités au début, une petite vingtaine d'artisans chocolatiers en France métropolitaine qui ont fait le choix de travailler en direct avec les producteurs, voire de monter directement leur filière solidaire. Et je peux vous citer, par exemple, Benjamin Bazoge de la Chocolaterie du Nouveau Monde qui est installée dans le village médiéval de Najac dans l'Aveyron. Je vais faire un petit peu de route, mais il va nous faire découvrir des origines de cacao d'Amérique du Sud exceptionnelles et un chocolat qui a un goût unique puisque les fèves sont torréfiées dans le four à bois du boulanger de son village. Le vieux four médiéval ancestral, ça donne un goût inimitable à ce chocolat. Et vous retrouverez aussi les sujets de Pâques, bien sûr, sur le stand de la Chocolaterie du Nouveau Monde. Nous avons également Samuel Moreau, qu'on surnomme le sauvage. Alors lui, c'est très particulier. Je vous ai ramené d'ailleurs un pot de pâte à tartiner. Samuel Moreau, il est installé à Fontaine-l'Éclairval, petit village dans le Doubs, pas très loin de la Haute-Saône, sur un écolieu. Et pareil, il y a un boulanger, futur paysan boulanger, installé sur son éco-hameau, qui utilise un four pour la cuisson de son pain. Et Samuel fait torréfier ses fèves dans ce four. Mais pas que les fèves, également les fruits secs. D'où la fameuse pâte à tartiner, mais il en aura une quantité sur son stand. La chocolaterie s'appelle Chocolatle. Vous avez ici, par exemple, et je me fais un grand plaisir de vous l'offrir, la version Big Bones. C'est une pâte à tartiner à l'amande, sans aucun sucre ajouté et sans aucune huile non plus. Il n'y a pas besoin de rajouter d'huile dans une préparation de pâte à tartiner quand on met déjà beaucoup d'amandes. Mais vraiment beaucoup, beaucoup d'amandes. Il en met plus de 60%. Des fèves de cacao et de l'huile d'olive. Alors je suis allé voir des chocolatiers et meilleurs ouvriers de France dans les grandes villes. Et quand je leur ai expliqué que j'avais un artisan qui faisait de la pâte à tartiner à l'huile d'olive, ils se sont tous mis à hurler, à sauter au plafond. On dit, mais c'est pas possible, ça doit dénaturer le goût du cacao. Ben venez goûter ça, venez tester les 4 et 5 avril à Solor, vous nous en direz des nouvelles, d'autant que toute cette gamme-là, celle de Samuel Moreau, Chocolat le Sauvage, est labellisée Nature et Progrès et bien évidemment bio. Nous avons également Oscar Namessi, c'est Natex Togo, c'est le plus jeune de nos chocolatiers éthiques, de ce tout petit réseau d'une vingtaine d'artisans que j'ai cités, qui a démarré sa chocolaterie il y a tout juste 2 ans, à Dompierre-sur-Veille, dans la Dombe, à côté de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Alors lui, il a vraiment une traçabilité absolue. Son papa est né au Togo, lui il est né en France, mais son papa, depuis une quinzaine d'années, avait monté une association pour récolter beaucoup d'argent et financer la construction d'écoles, la scolarisation d'enfants, la construction de dispensaires, etc., et des programmes de santé, de lutte contre le paludisme, dans la région de Badou, au Togo. Et Oscar, lui, autour de ses 20 ans, il a décidé de faire des études d'agronomiste. Et il est allé travailler dans une chocolaterie suisse qui est industrielle, que je ne citerai pas. Et il en a quand même fait une indigestion, j'ai envie de dire, de marketing surtout. Il pensait qu'il allait être embauché pour améliorer les recettes du groupe. En fait, il était embauché surtout pour faire des beaux PDF et des belles publicités marketing pour embellir l'image du groupe en question. Donc finalement, il a décidé de ne pas continuer dans cette voie-là et il s'est dit, bah, finalement, on a du cacao qui pousse au village au Togo Abadou. Et si je poursuivais l'action de mon papa, mais cette fois-ci sans uniquement compter sur la générosité du public français, et si on valorisait cette matière première qui pousse au village, le cacao, qui devient d'excellentes tablettes, mendiants et plein de délices que vous retrouverez sur le stand de Natex Togo. Et également la chocolaterie Camayos, qui est en Haute-Savoie, à Chenal-Efras. Là, c'est une filière solidaire qui a été montée avec le village d'Ayos, à 100 km à l'est de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et grâce à la vente de ce chocolat, cette pâte à tartiner, et toutes les belles choses, les sujets de Pâques aussi que vous allez retrouver ce week-end, Camayos, depuis 6 ans, a réussi à dégager j'ai suffisamment d'argent pour forer 4 puits, ça fait de l'eau potable pour plus de 2000 personnes dans la brousse à moins d'un kilomètre de chez eux, construire et meubler entièrement une école et construire également un dispensaire pour apporter des services à cette population qui est finalement, qui avant l'arrivée de Camayo, s'était isolée du monde et un peu coupée de tout et livrée à elle-même. C'est ça aussi, le côté éthique qui est beaucoup, beaucoup plus humain que l'équitable.
Donc, cette première édition du Salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales propose cette notion de croque éthique, avec un regard vraiment depuis le planteur, depuis le producteur, jusqu'à notre soucoupe ou notre assiette. Il y a tout ce processus que vous prenez en compte aussi. Est-ce qu'il y a la fabrication, mais il y a aussi l'aspect distribution? Est-ce que ça, c'est une activité qui est en ligne de compte aussi de croque éthique?
Tout à fait, puisque le plus souvent, ces artisans chocolatiers ne vendent que en direct par leur site internet, voire dans leur boutique, et dans des boutiques, dans des épiceries locales, etc., dans des boutiques où ils déposent leurs produits. Donc, quoi qu'il en soit, ce sont des petites productions. Ce sont des produits, effectivement, d'exception. Les chocolatiers travaillent entre 3, 5, 7 tonnes de cacao, gros maximum, chaque année. Ce sont des petits volumes, avec la possibilité aussi de faire des éditions spéciales pour telle ou telle occasion, ou des recettes spécialement conçues à la demande d'un client, qu'il soit restaurateur ou pâtissier ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'intégralité de la chaîne de valeur, depuis la plantation jusque à la transformation, mais la vente. Et vous parliez aussi de cette prise en considération aussi de, en quelque sorte, d'un bilan carbone global. Ils attachent évidemment beaucoup d'importance aussi à réduire au maximum l'impact de leurs emballages, notamment en termes de déchets. Je pense à la chocolaterie Camayos. La tablette, c'est pas compliqué. C'est un petit bout de carton plié en quatre et la tablette de chocolat à l'intérieur, tout simplement.
Alors, seront proposés des ateliers gourmands, des démonstrations et des expositions photos. Donc, vous pouvez nous présenter ce que seront ces ateliers?
Alors, les ateliers gourmands, nous avons notamment Oscar Namessi qui va proposer chaque après-midi à 15h30 un atelier initiation à la dégustation sensorielle autour du chocolat grand cru pure plantation du Togo. Oscar, il fait fréquemment des ateliers dans les écoles, dans les MFR, dans les écoles de formation à tout ce qui est métier de l'alimentaire, etc. Et bon, je peux vous dire que vous allez vraiment apprendre à redécouvrir le chocolat et surtout comment bien le déguster. On me dit parfois, mais quand même ce chocolat-là doit être assez cher, hein, vous savez, pas tellement plus que certains sujets de Pâques qu'on trouve désormais dans les supermarchés. Là, les prix sont en train de s'envoler, c'est hallucinant. J'ai vu des œufs de grandes marques industrielles que je ne citerai pas à 80 euros du kilo. Il y en a pour moins cher sur le salon du chocolat vertueux à Solor les 4 et 5 avril, disons-le. Bon, mais néanmoins, c'est vrai, il y a des tablettes de chocolat qui peuvent coûter 5, 6, 7 euros. Alors des gens viennent parfois me dire « Non, mais moi, je ne pourrais pas venir sur votre salon parce que moi, une tablette, elle me fait la journée et puis c'est tout. » Je dis oh, « bah, Au contraire, venez sur le salon, vous allez venir faire des ateliers gourmands et apprendre réellement comment profiter de toutes les saveurs particulières de ce chocolat. » Oscar Namessi va vous proposer cet atelier gourmand, effectivement, dégustation sensorielle. Il y a des démonstrations sur plein de stands. Et l'exposition photo, bah, finalement, elle est intégrée à la grosse expo Choco que Samuel Moreau, le sauvage, dont je vous ai parlé, qui nous vient du Doubs, nous a amené. Elle a été conçue à l'automne dernier, et là, pour la deuxième fois seulement, on la déplace quelque part en France. Une expo Choco qui présente vraiment toute la face cachée du chocolat, à savoir tout ce que la culture du cacao à grande échelle a pu induire en termes de déforestation, plus de 15 millions d'hectares quand même, de forêts tropicales vierges qui ont été rasées depuis les années 60 pour planter du cacao, en termes aussi de travail forcé des enfants, en termes de produits chimiques qui sont, beaucoup de produits chimiques qui sont désormais interdits dans l'Union européenne et qui sont toujours utilisés dans ces plantations là-bas, en Afrique, avec la complicité évidemment de certains gouvernements. Et puis, au sens plus large aussi, cette exposition Choco, elle interroge réellement qu'est-ce qu'est le business du cacao et du chocolat. Ça ne vous étonnera pas si je vous dis que le cacao ne pousse pas en France métropolitaine. Il pousse en Guyane par contre, en Martinique, à Mayotte. Mayotte essaye de relancer d'ailleurs sa petite filière du cacao qui a beaucoup souffert suite au cyclone Chido malheureusement. Mais une année, on mettra peut-être Mayotte à l'honneur aussi sur le salon. Bon, le cacao, ça pousse entre les deux tropiques. Il faut une humidité, il faut une hygrométrie, il faut une luminosité globalement stable sur toute l'année et pas trop d'écart de température. Alors que le cacao, il se négocie à la bourse de Londres et de Chicago. Vous voyez comme quoi le marché peut être totalement déconnecté de ce qui se passe sur le terrain. Et donc en plus de cette expo Choco qui va vraiment nous faire plonger au cœur des secrets et parfois des vilains secrets du chocolat, il y a une exposition de photos où vous allez pouvoir découvrir plein d'origines de plantations de ces délices que vous retrouvez après sur les stands du salon.
À vous entendre, j'imagine que vous serez vous-même le conférencier de ce samedi soir.
Le samedi soir, effectivement, on fait une petite nocturne, j'ai envie de dire, jusqu'à 20h. Mais à 18h30, on donne rendez-vous au public samedi 4 avril pour une conférence qui s'intitule « Le chocolat fait-il fondre la banquise ?» Là, on interroge le bilan carbone du chocolat. Bon, allez, je ne vais pas vous spolier toute la conférence, mais ce bilan carbone est assez catastrophique pour le chocolat industriel. Et pourtant, ça fait 5000 ans que les Amérindiens savent cultiver du cacao dans des forêts, dans des agroforêts. Vous comprendrez toute la différence entre des filières vertueuses comme celles que l'on défend et des filières où il y a un lien qui est totalement rompu entre les planteurs et les consommateurs. Imaginez qu'en Afrique, 9 planteurs sur 10, et ils sont 7, 8, voire 9 millions de planteurs de cacao, 9 planteurs sur 10 n'ont jamais mangé un carré de chocolat de leur vie. En résumé, ils ne savent pas pourquoi ils travaillent. Le premier geste éthique qu'on peut faire envers les planteurs avec qui on travaille main dans la main, c'est de leur amener le produit fini, pour leur donner l'amour du travail qu'ils vont faire. Eh bien, dans ce monde, effectivement, où il y a une multitude d'intermédiaires et où le lien est totalement rompu entre les planteurs de cacao et les consommateurs, eh bien, vous imaginez que le bilan carbone est évidemment catastrophique, alors qu'on peut faire tellement, tellement plus vertueux. Et les filières qu'on va présenter les 4 et 5 avril le prouvent. Soyez curieux, il y a plein de belles rencontres à venir faire sur chacun des stands.
L'aspect du cacao sera présenté sous toutes ses coutures, de la fève jusqu'au produit fini. Est-ce qu'il y a des étapes consommables très rapidement par rapport à la fève? Est-ce qu'elle est consommable ou alors il y a nécessité de la transformer, de la travailler pour qu'elle soit comestible?
Plusieurs exposants sur le salon croquetique vont vous proposer cette expérience gustative de goûter la fève de cacao brute. Alors ça, c'est une expérience qu'on peut se permettre sur le salon du chocolat vertueux. Je vous déconseille fortement de le faire avec des fèves de cacao que vous pourriez acheter, parce que sur Internet, maintenant, on trouve tout. Car il faut absolument avoir la garantie de comment le cacao a été fermenté, séché et surtout stocké. Si la fermentation est très mal faite, si le séchage est très mal fait, vous avez des fèves qui peuvent moisir très rapidement. Derrière, on n'arrivera jamais à faire un excellent chocolat. Et pourtant, 90% de la production mondiale de cacao, c'est du mauvais cacao. Mal fermenté, mal séché, vous allez me dire, bon, au final, On aime bien le chocolat quand on l'achète dans les grandes surfaces, oui, mais il faut voir tous les additifs qui ont été rajoutés, et tous les arômes, etc., pour effectivement masquer différents goûts qui auraient pu paraître suspects. Et beaucoup de sucre, surtout. Beaucoup, beaucoup de sucre. Tous les chocolats qu'on va présenter sur le salon du chocolat vertueux, y compris le chocolat au lait, à plus de 55% de cacao. Et oui, parce que là, on parle de producteurs de cacao. Ils n'ont pas envie de vous vendre du sucre et de la graisse qui vont vous rendre accro. Ils ont envie de valoriser leur matière première noble. Et donc, cette matière, on va la voir aussi prendre vie, se transformer. Il va y avoir des transformations avec des petites machines alors, qui ont été bricolées, parce que c'est un bricoleur de fou, Samuel Moreau, effectivement, il touche à tout. Il récupère des machines dans des brocantes ou chez des paysans à droite à gauche et il dit tiens, en mettant un petit mécanisme comme ça, une manivelle, peut-être que j'arriverai à broyer des fèves de cacao avec ça. Ben, ça marche tout à fait, ça marche très bien. Il nous ramène aussi un petit torréfacteur, il y aura des torréfactions de cacao et vous allez pouvoir voir les différentes étapes et comment le goût finalement il évolue. Croquer dans une fève de cacao, celle du réseau Croquetix, c'est-à-dire où on sait que la fermentation a été faite de manière optimal, tout comme le séchage. Croquer dans une fève, c'est une vraie expérience. On peut voir d'un pays à l'autre, finalement, le terroir s'exprimer. Par contre, c'est vrai que ça part réellement le goût qu'on peut se mettre en tête du chocolat final. C'est pour ça que toutes les étapes suivantes, que ce soit le concassage, le broyage, le conchage, sont essentielles pour développer, et il faut des heures et des jours pour le faire. Quand c'est bien fait, pour développer tout le profil, toute la palette de saveurs que peut nous apporter le cacao. Vous savez quand même, une anecdote, c'est qu'il y a deux matières premières agricoles, en quelque sorte, que les industriels n'ont jamais réussi à reproduire le goût dans des arômes artificiels. C'est le miel et le cacao. Même dans des mousses au chocolat très bas prix, on met quand même un petit peu de cacao. L'arôme cacao n'existe pas en tant que tel. Le complexe, le profil aromatique du cacao est tellement complexe que pour l'instant, les industriels n'ont pas réussi à le copier. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux, parce que quand on voit les belles filières qui sont défendues à Soleure les 4 et 5 avril, franchement, ça vaut le détour.
Un festival pour les cinq sens, donc. L'exposition photo sont de qui ?
À toutes des photos qui ont été prises par soit les artisans qui sont présents sur le salon, donc dans leur plantation, soit par la personne qui est en charge, qui est la seule intermédiaire, qui est en charge effectivement de sourcer, mais là je parle bien de petits sourceurs indépendants, effectivement, pour des plantations, par exemple, je pense à celle où Chocolate, le Samuel Moreau, se fournit en Colombie. C'est un planteur qui produit des fèves de cacao blanches, vraiment un profil génétique exceptionnel, parce que quand on va visiter des musées du chocolat, on vous apprend qu'il y a trois principales variétés de cacao. Alors, des principales, oui, peut-être, mais en vérité, il y a beaucoup de raccourcis qui ont été faits. Vraiment, dans l'exposition photo et choco, vous allez découvrir vraiment toute la diversité qu'il peut y avoir en fonction de telle ou telle variété de cacaoyer. Après, il y a des hybridations qui se font naturellement aussi, hein, par la pollinisation. C'est une toute petite mouche qui vient polliniser la fleur de cacao. Et ça va donner une palette de couleurs phénoménale. Vous avez des cabosses, puisque c'est le fruit. Les fèves de cacao sont contenues dans les cabosses. Vous avez des cabosses qui peuvent avoir des couleurs jaunes, verts, marron, rouge, parfois ça tire même sur le bleu-vert. C'est vraiment un enchantement aussi pour les yeux de voir cette exposition photo de ces petites plantations qui sont le plus souvent gérées en agroforesterie et non pas en monoculture.
Cette entrée est à 2 euros, je crois. Hein. C'est la participation aux frais. Hein.
C'est la participation aux frais, mais c'est même, j'ai envie de vous dire, c'est un forfait, en fait, parce que l'entrée coûte 2 euros pour les plus de 16 ans. Pour les moins de 16 ans, c'est gratuit. Ah, très intéressant aussi, l'entrée est gratuite pour les personnes qui viendront en bus, en car, pardon, le samedi du coup. Parce que malheureusement, il n'y a pas de car qui s'arrête à Soleure. Là, on est du coup à l'arrêt pont de car. Pas le même car, hein, pas le CAR, pont de car QUART.
Les Diois connaissent.
C'est là exactement oui. Où il y a la salle polyvalente.
Oui.
Donc, c'est la ligne de car D29 et il y a 3 arrêts dans la journée, que ce soit depuis Châtillon, depuis Luc-en-Diois, que ce soit depuis Manglon, que ce soit depuis Die. Si vous venez en bus, vous avez l'entrée qui vous est offerte. Tout comme si vous avez moins de 16 ans. Et même si vous avez moins de 16 ans et si vous avez l'entrée qui vous est offerte en venant en bus, vous avez quand même le chocolat chaud offert. Donc quand je vous dis 2 euros, et encore pour beaucoup c'est gratuit si vous l'avez compris, si vous avez envie d'avoir le réflexe de l'écomobilité, de venir en bus, même pour celles et ceux qui auraient plus de 16 ans et qui viendraient en voiture, 2 euros, bon, vous avez le chocolat chaud qui vous est offert, vous avez les ateliers gourmands qui sont en accès gratuit, l'expo choco, etc. Donc voilà, c'est un forfait et vous pouvez venir tout le week-end si vous voulez. Si vous voulez revenir le dimanche, il n'y a aucun problème.
Première édition de ce salon du chocolat vertueux, il y a eu une volonté de venir à Solor-en-Diois pour lancer ce festival. Est-ce qu'il y en aura d'autres successivement dans d'autres endroits de la France, j'imagine ?
Alors pour l'instant, le même salon croquettique, il existe à Héry-sur-Albi en Haute-Savoie, à Orchamps, je rappelle, dans le Jura pour les personnes qui seraient dans le secteur et qui peuvent venir pour le coup en train puisqu'il y a une gare à Orchamps et l'entrée est aussi gratuite. Ce sera à la salle des fêtes d'Orchamps dans le Jura, c'est C-H-A-M-P-S à la fin. Les samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre. Donc là, dans le Diois, c'est la 3e région en France où le salon a lieu. Et on est en discussion pour aussi peut-être l'organiser dans l'avant-pays de Savoie, à côté du lac d'Aiguebelette, précisément à Aiguebelette-le-Lac. Ce sera peut-être au mois de novembre, mais les dates n'ont pas encore été définies. En tout cas, on espère que cette première édition dans le Diois, et je sais que la population est très très sensible vraiment à ce qu'elle met dans son assiette et à consommer des choses qui ont du sens. J'espère que ce sera un grand succès. Ça nous permettra de réitérer chaque année pour le week-end de Pâques ou peut-être un week-end avant Pâques ou deux week-ends avant Pâques, je ne sais pas, on réfléchira à la date si elle était mal choisie. Mais l'idée, oui, ce serait au début du printemps, chaque année, de le réorganiser, ce salon du chocolat vertueux. Tant qu'à faire des belles découvertes et manger des belles choses, on ne va pas se priver.
Pour en savoir plus, il existe une page Facebook intitulé « Chocolat Diois » en un seul mot, donc c'est facile à trouver, j'imagine. Pour ce qui est des dates, 15 et 5 avril, ça sera de 10h à 20h pour samedi et de 10h à 19h pour dimanche. Il n'a pas lieu de réserver ou quoi que ce soit.
Pas besoin de
réserver. C'est un lieu suffisamment grand pour... je voulais savoir, il y aura donc des ateliers gourmands avec des appareillages qui seront présents pour que les gens puissent aussi découvrir les multiples possibilités de traitement de cette fève de cacao. Donc,
exactement. Il va y avoir les petites machines, quelques petites machines sur des stands qui vont tourner et ça va embaumer le chocolat un peu partout,
ouais.
Évidemment. Que ce soit avec de la pâte à tartiner ou du chocolat qui, quand il est à température à plus de 40 degrés, est encore liquide. Il faut qu'il descende en dessous de 35 pour figer le chocolat. C'est ça vraiment. Soyez curieux. La curiosité, vraiment, n'hésitez pas sur chacun des stands à venir goûter, puisqu'il y aura plein de petites choses proposées comme ça à disposition, à venir regarder cette matière chocolatée, prendre forme et puis bien sûr poser des questions à nos exposants qui sont passionnants et passionnés et qui sont pratiquement tous autodidactes. Ça, c'est particulier aussi. Quasiment aucun n'a fait une formation de chocolaterie classique. Ils se sont tous formés, finalement, auprès d'autres chocolatiers qui étaient déjà, entre guillemets, dans le même délire, dans la même passion. Vous savez que pour celles et ceux qui se sont lancés en tout premier dans la transformation de la fève à la tablette au début des années 2000, c'était le parcours du combattant. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des petites machines. Il fallait les bricoler soi-même. Un peu ce que Samuel Moreau fait, d'ailleurs. Et vous allez voir, vous pourrez vous aussi tourner la manivelle pour faire vous-même un broyage de cacao.
Vous-même êtes passionné de chocolat, j'imagine.
Ah oui, beaucoup. Puis comme j'ai un papa, ça me permet de lui rendre hommage, qui avait fait un apprentissage en pâtisserie dès l'âge de 13 ans et qui a travaillé pendant une quinzaine d'années là-dedans. C'était une époque où on ne pouvait pas vivre, du moins en province. Peut-être qu'à Paris, place Vendôme, oui, mais dans nos petites villes de province, il était impossible de vivre en étant que chocolatier. Bon, il a laissé tomber la profession de la pâtisserie à l'âge de 27 ans. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours été gourmand. C'est un fait, j'ai toujours beaucoup apprécié le chocolat. Mais depuis quelques années maintenant, grâce à ces artisans torréfacteurs passionnés qui m'ont fait découvrir l'envers du décor, je me dis que quand même, je suis bien amer, qu'on m'ait caché plein de choses sur tout ce qui se passe à l'autre bout du monde dans les plantations de cacao. On ne sait pas tout, mais nous, justement, on va vous dévoiler ce qui s'y passe pour que vous puissiez ensuite consommer en toute conscience.
Lionel Berthet, merci beaucoup d'être venu sur Heure du Voix pour nous parler donc de ce salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales. Ce sera à Soleure-en-Diois les 4 et 5 avril. Et je mettrai le lien de la page Facebook sur l'article du podcast de cette émission sur notre site Heure du Voix. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup Yves et vive les radios associatives.
Au revoir.
With a voice like Ella's ringing out, there's no way the bank can lose.